Pour démarrer cette émission, nous allons parler d'exosquelette. Et donc, notamment aujourd'hui, d'un projet qui s'appelle Motion, l'exosquelette innovant, porté donc par un laboratoire et une équipe de HEI Junia. Et nous avons invité Laurent Peyraudy, qui est enseignant-chercheur donc dans cette école. Bonjour, monsieur Peyraudy.
Bonjour.
Donc, on peut peut-être redire rapidement, on a entendu parler dans les grands médias d'exosquelettes pour des raisons, on va dire, sociétopolitiques. On pourrait peut-être définir maintenant de façon un peu plus précise ce que sont les exosquelettes, ce qu'ils permettent de faire, ce qu'ils pourront éventuellement permettre dans l'avenir et en quoi ils sont importants, indispensables même.
Bon, les exosquelettes sont des structures mécaniques qui sont motorisées, qui sont portées, qui sont fixées sur le corps humain. Et donc, ce sont des machines extérieures qui vont permettre d'augmenter les capacités de l'homme, capacités musculaires, ou de pallier, un handicap, refaire marcher une personne en lui mettant, un squelette motorisé qui va pouvoir lui permettre de marcher.
Voilà, donc c'est vrai qu'il y a à l'Université de Lille, une exposition, enfin une thématique consacrée à l'homme prolongé. Est-ce que ça pourrait en faire partie?
Oui, tout à fait. C'est un moyen, de soit d'augmenter les performances d'une personne, soit de compenser un problème biomécanique sur la personne, que ce soit les membres inférieurs, les bras, les membres supérieurs, tout type de problème.
J'imagine que ces recherches sont intéressantes et intéressent beaucoup de disciplines, beaucoup de secteurs, même de l'industrie ou de l'armée, pourquoi pas ?
Au niveau des disciplines, tous les champs sont couverts au niveau des disciplines, que ce soit la mécanique, la robotique, l'automatique, l'électronique, l'informatique. Donc ça regroupe vraiment beaucoup. Et au niveau des applications, effectivement, que les plus connues, sont celles pour les militaires. Donc c'est le soldat qui va pouvoir marcher pendant des kilomètres sans se fatiguer en portant 100 kg de matériel. Mais nous, on est plutôt tourné vers des applications, pour les enfants et pour la réhabilitation des personnes.
Donc, c'est vrai qu'un certain nombre d'enfants naissent avec des difficultés, des problèmes, et donc des manques à compenser, on peut résumer ça comme ça ?
Oui, tout à fait. Des problématiques d'équilibre, des problématiques de membres qui sont déformés, donc qui empêchent une marche, fluide. Et donc, nous, on veut travailler là-dessus. C'est permettre soit de réapprendre à marcher, avec des schémas de marche, pas idéaux, parce que ça n'existe pas, mais où l'équilibre est bien compensé, ou refaire marcher quelqu'un qui ne peut plus marcher.
Alors, c'est vrai que pour faire marcher les gens, il y a plusieurs façons, mais les aider techniquement, mécaniquement peut-être, et psychologiquement, il y a tout ça, non ?
Il y a tous les aspects qui sont réunis, on a un aspect acceptabilité, parce que la question qu'on se pose quand vous avez des difficultés, que vous êtes enfant, que vous avez des difficultés à marcher, c'est comment vous allez accepter le fait d'utiliser une structure mécanisée. Est-ce que ça va vous faire peur? Est-ce que pendant l'usage, vous allez avoir peur? Donc on a aussi toute une partie à côté. On a développé une combinaison textile intelligente avec des capteurs pour pouvoir évaluer le stress pendant l'utilisation de la structure.
Donc ce que vous faites, ce que vous produisez, ce que vous élaborez dans vos laboratoires, j'imagine que c'est favorisé par les développements de la science, la technologie et de l'informatique.
Oui, tout à fait. Oui, de toute façon, actuellement, on regroupe toutes les disciplines. Oui. La partie mécanique, à la limite, une fois qu'elle est faite, on peut la conserver, mais on est toujours en attente sur la partie contrôle, commande de la structure. pour permettre une marche qui soit la plus fluide possible et avec un contrôle de l'équilibre.
J'imagine que les médecins, les kinés sont aussi impliqués dans ces dispositifs ?
Tout à fait. Nous, donc c'est un projet européen, Motion. Donc on est 14 partenaires. Et donc c'est un projet interreg des deux mers, donc avec des partenaires qui sont en Flandre, en Belgique, en Hollande, en Grande-Bretagne. Et donc on a plusieurs partenaires qui sont des centres d'accueil d'enfants cérébro-lésés qui sont partenaires. Et avec qui on a défini la structure, parce que ce genre de système ne peut pas être défini sans justement avoir autour de soi des usagers et des médecins.
Alors quand on parle des enfants, il faut bien sûr parler aussi des parents qui, eux, sont sans doute en attente de solutions.
Les parents sont bien sûr en attente de solutions. Et là, c'est pour ça qu'aussi, c'est important pour nous de venir dans les radios et d'essayer de communiquer, c'est que ces technologies, elles peuvent faire peur. Elles sont très, très novatrices. Donc, il faut dire aux gens que ça existe et que c'est vraiment des technologies qui vont leur être utiles au quotidien. C'est pour améliorer le quotidien des enfants ou des personnes qui les portent. Et que c'est, on va dire, un complément aux soins classiques. Et donc, c'est vraiment pour améliorer la vie de tous les jours.
Est-ce que ces parents, une fois qu'ils ont constaté des problèmes chez leur enfant, qu'il y a des diagnostics qui ont été posés, se regroupent en association et vous épaulent d'une certaine manière pour développer vos projets ?
Oui, tout à fait. Et à l'origine de la jeunesse du projet, c'est fait par un papa qui voulait voir sa fille marcher. Donc il était venu nous voir en tant qu'ingénieur pour savoir si on pouvait faire marcher sa fille. Donc effectivement, nous avons plusieurs associations qui nous suivent.
Donc on a parlé tout à l'heure d'applications militaires, etc. Là, on est dans un projet humaniste.
Tout à fait. Tout à fait. On essaye d'apporter notre pierre pour que les enfants puissent... Parce que la marche, c'est quelque chose de fondamental pour aller vers l'autre. Et donc, si on confine les enfants dans un espace qui est leur domicile, ils ne vont pas s'ouvrir vers les autres. Et donc, c'est important de pouvoir essayer d'améliorer leur mobilité, donc leur autonomie, et donc la possibilité d'aller vers les autres.
C'est vrai que quand on est... sans difficulté majeure de ce type, on ne se rend pas compte d'un certain confort, voire même d'un certain luxe de pouvoir marcher. On s'en prive parfois un peu et on néglige parfois de marcher alors que c'est très bon pour la santé. Est-ce que marcher avec un exosquelette, on va dire, c'est encore aussi intéressant pour la santé de se mouvoir et de prendre l'air, etc.
Là, je... Personnellement, je ne suis pas médecin, hein. Donc c'est difficile de répondre à cette question, mais d'autant plus que nous, on est en amont, on essaye de refaire marcher des personnes qui ne peuvent pas, mais de toute façon, oui, il est toujours intéressant. C'est un des problèmes, on va dire, plus fondamentaux qui est étudié aussi à travers ces projets, c'est est-ce que stimuler des gens à la marche, est-ce que stimuler les personnes font améliorer leur bien-être et leur qualité de vie? Et donc, si marcher fait partie de la qualité de vie pour ces personnes-là, il faut l'évaluer aussi, c'est ce qu'on essaye de faire.
Donc, marcher, c'est encore une façon de découvrir le monde, de ressentir, d'avoir des sensations qu'on n'a pas sur Internet, etc.
Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'étudier le stress, pour savoir finalement si au début, il va y avoir un stress, et puis après, ce stress se transformera en autre chose.
Alors, on peut peut-être aborder, Laurent Perraudy, le niveau de réalisation de vos recherches, hein, où vous en êtes, et ça touche combien de personnes, ces appareillages ?
Alors, au niveau de la structure qu'on a développée sur le site de Junia, on a une structure, on va dire, des membres inférieurs, donc qu'on peut brancher sur les jambes de l'enfant, et on va pouvoir lui faire des pas en automatique, avec un contrôle de l'équilibre qui est fait par une personne extérieure. Parce que le contrôle de l'équilibre, c'est très complexe, d'une part, Et c'est tout l'enjeu de la sécurité. Il ne faut pas que la personne tombe en utilisant le système. Donc là, on est dans une phase, comme c'est un dispositif médical, on est dans une phase où on est en pourparlers avec nos collègues hollandais pour faire les premiers tests sur enfants en Hollande.
Pourquoi en Hollande et pas en France? Il y a des problèmes de légalité de certaines pratiques ou pas du tout?
Non, on fait que des choses légales, je rappelle.
Alors je me dis peut-être.
Dans le projet, on n'a pas eu de collègues français cliniciens il y a quelques années. Et les Hollandais, on est sur un centre où ils ont déjà des exosquelettes pour adultes. Ils sont, on va dire... plus en avance que nous en France sur ces parties-là.
Je blaguais un petit peu, mais est-ce qu'il y a un genre de comité d'éthique qui se penche sur ces pratiques ou pas ?
De comité d'éthique, on va dire non. On n'a pas encore de comité d'éthique et on travaille surtout avec les cliniciens.
Donc, vous parliez de cette école, hein, Junia et HEI, qui sont associés sur ce projet, c'est bien ça ?
Junia, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs qui a regroupé les trois écoles historiques ISA, ISEN et HEI. Et donc, nous, on est Junia et moi, je travaille pour le diplôme HEI.
Mmh. Donc, des ingénieurs qui sont polyvalents d'une manière générale ?
Nous, on forme des ingénieurs généralistes. Et sur ces projets, on va plutôt les mettre, on va dire, sur les parties documentaires relatifs au dispositif médical. On les a mis sur les études de faisabilité pour savoir si on pouvait faire quelque chose. C'est sur ces parties-là. Après, les procédés deviennent tellement complexes que pour prendre en main le procédé, ça dépasse, on va dire, le cadre des projets classiques d'étudiants.
Mmh. Est-ce que... par la suite, ça pourrait être aussi l'objet de thèses de futurs médecins ou de médecins, pourquoi
bien
pas,
hein, oui. Oui, bien sûr. On va dire, pour la partie médicale, c'est encore autre chose au niveau des thèses. Mais bien sûr qu'on pourra tester et mettre ça pour des jeunes praticiens qui veulent passer leur thèse de doctorat en médecine.
Alors, Laurent Perraudy, on fait peut-être rêver beaucoup de gens qui ont des espoirs. Est-ce qu'on peut leur annoncer des bonnes nouvelles pour dans peu de temps ?
Peu de temps, tout dépend ce qu'on appelle peu. Mmh. Non, on va dire que là, le projet actuel se termine fin mars au niveau de l'Europe et j'ai posé une demande pour un futur projet. On va dire, si vous voulez une structure validée, parce que là, on est sur un cas clinique, c'est-à-dire à l'hôpital, un usage très encadré à l'hôpital. On va dire que d'ici 3 ans, il pourrait y avoir des choses. Et si vous voulez l'utiliser ensuite au domicile, il faudra au moins attendre 2 années de plus.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de nos auditeurs ?
Ben, qui diffusent le fait que ces technologies sont des choses qui sont positives, qu'il ne faut pas en avoir peur et que les gens qui les fabriquent sont conscients des problèmes éthiques, même si on n'a pas de comité d'éthique.
Et peut-être de convaincre leurs élus, les députés, etc.
Oui, tout à fait. Oui. On a eu une annonce il n'y a pas longtemps, notre président qui a dit qu'il fallait un exosquelette par région. Mm-hmm. Je dirais qu'il a été modeste, il en faudrait beaucoup plus.
Mm-hmm. Je pense que lui, il voyait que les exosquelettes étaient déjà en pratique pour aider tous les travailleurs manuels de France qui avaient une rentabilité économique dans le circuit. On pourrait dire que ça aussi, cette fonction des exosquelettes n'est pas négligeable et qu'il faudrait peut-être la mettre en priorité, non ?
Oui, ça peut être une priorité, mais on va dire que c'est des appareils qui sont quand même très récents. Et donc, il faut quand même aussi faire des études cliniques un peu plus poussées pour savoir si l'usage intensif de ces appareils ne peut pas poser des problèmes sur le squelette, la musculature... Voilà. Quels sont les effets ? Est-ce qu'ils vont changer les capacités musculaires ? Est-ce qu'ils vont changer quelque chose ? Donc c'est très important, en parallèle, de travailler avec les cliniciens pour qu'ils disent « on peut utiliser cette structure, elle ne vous fera pas de mal à terme ». Je prends l'exemple très simple, c'est qu'à une époque, il y a très longtemps, les scaphandriers, les gens qui plongeaient très profond avec les scaphandriers, notamment surtout les systèmes qu'on met sous la mer, avaient des problèmes articulaires très rapidement. Donc il ne faut pas, et d'ailleurs les exosquelettes doivent être conçus pour justement protéger les articulations des personnes. C'est-à-dire que si vous portez 100 kilos alors que naturellement vous en portez 10, voilà, il faut savoir là, si on ne va pas abîmer le squelette de manière prématurée. Donc ça demande encore, je pense, des études. Il y en a qui sont faites, mais à poursuivre en permanence.
Donc, dans la région de France, c'est lancé, aux Pays-Bas, visiblement aussi. Est-ce qu'il y a d'autres régions du monde, d'autres pays qui sont intéressés, qui développent ce genre de projet ?
Bah, nous, on travaille avec nos collègues de l'Université de Leuven, en Belgique. Donc, ils sont très avancés aussi. En France, sur Paris, il y a quand même... aussi des gens qui travaillent là-dessus. On va dire que partout dans le monde, c'est développé. Les Chinois, je travaille avec des collègues chinois, ils sont très intéressés parce que, peut-être moins pour les enfants, mais ils ont les mêmes problèmes de vieillissement que nous en France ou dans les pays européens, à une échelle beaucoup plus importante. Ils sont très intéressés par toutes ces structures. Et donc c'est quand même des technologies d'avenir et qui amèneront, je dirais, une nouvelle économie. Oui.
C'est facile ou, comme on peut dire, par rapport à la Chine, aux Chinois, est-ce qu'il y a moyen de développer des partenariats intéressants, vu le contexte actuel ?
On va dire qu'on développe des partenariats de fait, parce que quand vous achetez quelque chose, ça vient de Chine en général. Et là, la difficulté qu'on a, c'est notamment au niveau du matériel, c'est qu'il faut que les matériaux soient certifiés, CE au minimum. Et donc, les matériaux chinois le sont rarement. Donc, pour l'instant, on fait des partenariats plus intellectuels que techniques.
Est-ce que ce serait intéressant que vous ayez une mission pour voir ce qui se fait en Chine en termes de pratique dans ce domaine des exosquelettes ?
Oui, j'ai quelques contacts là-bas, oui. C'est toujours intéressant d'aller voir. Je pense qu'il y a la Chine, qu'il y a le Japon, qu'il y a beaucoup de pays qui sont très avancés dans le domaine.
Vous avez les moyens, en tant que labo, d'y aller dans un projet bien construit ?
Il faut que je construise un projet avec mes collègues chinois.
Il n'y a pas de raison, hein, ça doit pouvoir se faire. Et donc, en France, on l'a dit, hein, plusieurs lieux travaillent. Est-ce que vous travaillez en synergie ou chacun évoluez en fonction d'un contexte peut-être à préciser au niveau d'une population ou de particularités locales ?
Oui, on travaille surtout en fonction de l'objectif et de la population cible. On va dire que beaucoup de projets sont faits pour les personnes âgées. Et que nous, on a choisi une cible qui était les enfants, donc qui n'était pas la cible la plus répandue. Et avec le souci, en fait, les enfants grandissent, et donc il faut que les structures s'adaptent à la taille de l'enfant. Donc l'avantage, c'est que les masses qu'on a à gérer sont moins importantes que sur un adulte, mais les problèmes de croissance de l'enfant sont importants.
J'imagine qu'il faut, donc à chaque fois... peut-être même changer des dispositifs pour les remplacer par d'autres plus adaptés à la taille, etc.
Justement, nous, on a fait une structure qui essaye de s'adapter au maximum. C'est l'objectif.
Bon. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre également du public qu'il accepte de collaborer avec vous pour faire des expériences d'une certaine manière ?
Là, faire des expériences sur ce genre de machine, c'est sur leurs enfants.
Mais c'est pour ça que je pose la question. Donc, c'est une réflexion qui mérite.
Oui, je pense qu'il peut être intéressant de faire des tests. Alors bon, attention, c'est des matériaux. Tant qu'on n'a pas toutes les certifications, c'est une question d'assurance. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais effectivement, faire des tests déjà sur des enfants, des jeunes enfants qui n'ont pas de problème, ça peut être intéressant pour voir comment ils réagissent. Nous, on a fait des tests sur nos collègues qui rentrent dans la machine. Donc, on a ciblé les populations parce qu'en fait, ça demande un apprentissage. C'est-à-dire que, notamment la gestion de l'équilibre, ça demande un apprentissage. Donc, ce n'est pas inné. Vous n'allez pas mettre l'exosquelette et marcher de manière innée. Il va falloir qu'on vous apprenne à marcher. Et effectivement, si... Une fois qu'on aura toutes les autorisations et la capacité d'un point de vue assurance de pouvoir mettre une personne dedans, ça peut être intéressant de faire des tests, voir, pourquoi pas voir ça d'un côté ludique.
Alors, pour les personnes qui seraient intéressées, hein, peut-être directement, parce qu'ils ont un de leurs enfants qui a des difficultés, qui voudrait qu'on avance dans la science et la technologie positivement, est-ce qu'on peut retrouver le projet Motion sur un site web où tout serait expliqué et mis à jour pour qu'on voit un petit peu l'évolution de vos processus?
Alors, on a un site web qui est Motion Interreg. On a un LinkedIn, on a un Twitter. Alors, c'est toujours Motion Interreg. Donc, c'est, en tapant ce mot-clé, on a même une chaîne YouTube. En tapant YouTube Motion Interreg, on tombera sur la chaîne YouTube.
Donc, Motion Interreg, c'est le projet européen, voilà, qui est financé par l'Europe, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ça va? Ça se passe bien au niveau de l'Europe? Ou il faut encore convaincre des députés européens?
Sur ce projet-là, on a convaincu et on a fait notre événement de fin de projet. Et les gens de l'Europe étaient là, ils étaient très contents parce qu'on a des choses concrètes à montrer.
Et c'est vrai qu'Interreg, c'est justement quand on arrive à grouper trois pays, par exemple, comme c'est votre cas.
Là, on est même sur quatre. Parce qu'il y a la Hollande, la Belgique, la France et l'Angleterre.
Voilà, donc un projet, j'allais dire, parfait sur le papier.
Sur le papier, mais... Et là aussi, je remercie tous mes collègues et, du projet. Ils sont vraiment tous très investis et tout le monde a très bien travaillé parce qu'en plus de faire les réalisations technologiques, on a aussi développé des modules de formation destinés alors au grand public mais aussi aux professionnels. Mmh. Enfin, ça, c'est les Anglais qui ont proposé ces modules-là.
Et pour convaincre l'Europe, est-ce que la région vous aide à monter vos projets ou vous êtes grand?
On a, en fait, il y a toujours, sur les projets européens, il y a toujours des conseillers régionaux qui nous aident à répondre parce que c'est quand même des dossiers très, très codifiés. Et donc, il faut répondre aux questions qui sont posées, qui peuvent parfois être très éloignés de nos préoccupations quotidiennes.
J'imagine qu'à terme, la région sera fière d'avoir aidé à la réalisation de vos projets.
Ben, j'espère, oui. Et on appose l'autocollant de la région, de l'Europe, et nous, on est très contents de faire ça en région, oui, bien sûr.
Bien, merci Laurent Perraudy. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, et puis merci de trouver des personnes qui vous aident toujours plus en avant pour aller mieux, plus vite, plus loin.
Je vous remercie.